En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Que les dieux ne prennent pas directement part à la guerre remonte au moins sans doute à l'enseignement des grands sophistes, il faut quand même se garder de généraliser. Quelques 60 ans après Chéronée, une armée de Gaulois pénètre profondément en Grèce, arrive jusqu'à proximité de Delphes avec l'intention de piller le sanctuaire. Elle est attaquée par les Étoliens, c'est l'hiver. Un violent orage éclate, des rochers roulent. Nul doute, c'est Apollon lui-même qui est intervenu pour chasser les barbares et je croyais retrouver certains récits de M. Romère. Donc la rupture n'est pas aussi complète qu'il pourrait le penser. Alors on lit ce récit chez Pausanias, deuxième siècle après Jésus-Christ. Mais ça n'est pas Pausanias qui l'a inventé. Il n'est pas douteux que les Étoliens avaient fait valoir qu'ils avaient reçu l'appui du dieu. Est-ce que ces Étoliens seraient, comme le prétendent leurs adversaires, des semi-barbares, à moitié civilisés? Si nul n'ose de les accuser de falsification, on les accuse quand même d'une habile propagande politique pour justifier leur mainmise sur le sanctuaire d'Apollon. Ou bien, est-ce que l'intervention divine s'expliquerait plus aisément parce qu'il s'agit de barbares, redoutés et haïs de tout le monde? Au même moment, une armée hellénistique, nous sommes dans le nord, très faible, on hésite à appeler encore son chef un roi, affronte dans le nord une autre bande gauloise qu'il réussit à vaincre. Là aussi, il fallut l'aide des dieux, et surtout du dieu Pan, et vous le voyez sur les monnaies frappées plus tard par le roi, au milieu du bouclier macédonien, et Pan a été évidemment d'une aide très efficace. Il répand la terreur panique chez les adversaires et les Macédoniens gagnent facilement. Et donc le récit de l'historien tardif est tout à fait confirmé par les monnaies d'Antigone Gonatas et vous constatez que derrière, au revers de ces monnaies, on trouve une divinité macédonienne, Athéna Alkis, qui porte le bouclier avec la tête de Pan que vous voyez au droit. Donc les monnaies, et là c'est un rôle nouveau que jouent les monnaies illustrent l'appui divin dont le roi a bénéficié. Pour comprendre cette évolution majeure dans l'histoire de la Grèce, et en particulier l'apparition de roi auquel on accorde un culte divin, il faut remonter à Chéronée. Alors, nous avons commencé par Démosthène, c'est-à-dire par le vaincu. Mais que se passait-il dans le camp des vainqueurs? La guerre la plus importante pour les Macédoniens, c'est celle qui les oppose, en fait, enfin qui installe le roi au cœur des affaires grecques, c'est ce que nous appelons, un peu avant Chéronée, la guerre sacrée, parce qu'elle tournait autour du contrôle des richesses d'Apollon dans le sanctuaire de Delphes. L'affaire est ancienne, la cité de Delphes avait conquis son indépendance au début du VIe siècle en s'appuyant sur un ensemble de peuples voisins qu'on appelle les Amphictyons, mais il y avait toujours eu des luttes entre les Delphiens et les autres habitants de la région. Et vers le milieu du IVe siècle, ce sont les Phocidiens, donc les autres habitants du massif du Parnasse, qui prennent le pouvoir à Delphes et qui gèrent le sanctuaire. Leur principal ennemi est Thèbes, ce qui amène Athènes à pencher pour les sacrilèges, voire à les aider en sous-main. Et le sort de la guerre est réglé à partir de l'intervention de Philippe II. Ça ne se fait pas très vite, mais c'est comme ça. Alors Démosthène, dans son plaidoyer, a été extrêmement discret sur cette guerre, parce que Athènes n'avait pas été très fier de son rôle, et certains ne s'étaient pas privés de l'accuser de sacrilège, ce qui correspond en somme à l'accusation d'Échine. En revanche, Philippe, lui, met son rôle en lumière. Il ordonne dans un combat décisif à ses troupes de se couronner de laurier pour montrer qu'ils sont les défenseurs de la cause d'Apollon. Et on s'est même demandé s'il n'avait pas songé, sinon à revendiquer un statut divin, du moins à faire valoir que sa nature était suprahumaine. Aussi bien dans une offrande à Olympie que lors du mariage de sa fille en Macédoine, il ajoute sa statue en or et en ivoire, c'est-à-dire dans des matériaux qui sont normalement réservés aux statues divines et non pas aux statues humaines, il ajoute sa statue et les statues de sa famille en or et en ivoire à celles des dieux olympiens. Cela dit, rien ne permet de parler d'un début de culte du roi. Et tout ce que nous pouvons retenir, c'est son habileté politique à souligner sa piété envers les dieux et à faire valoir que ceux-ci l'avaient pleinement soutenu. Tout change avec la mise en scène par Alexandre de l'appui divin à sa conquête. Il aurait fabuleuse, pour ne pas dire miraculeuse, conquête de l'Empire perse, la disproportion des forces est considérable et une aventure tout à fait extraordinaire. Dès lors que le conquérant macédonien s'est proclamé seul roi légitime de l'Empire perse, c'est-à-dire successeur du roi des rois, roi de l'Asie, nous voyons s'édifier petit à petit une construction politique soigneusement méditée dans l'entourage royal et préparée avec l'aide des clergés locaux. Alors, il n'est pas facile de la décrypter parce que nous n'avons que quelques rares témoignages datant de la conquête et surtout des travaux d'époque impériale qui avaient évidemment des objectifs différents. L'épopée d'Alexandre a suscité très vite des amplifications, fait naître des légendes. Et par exemple, si nous prenons la vie d'Alexandre de Plutarque, il n'est pas douteux que les réflexions sur les dieux nous apprennent plus sur la pensée du disciple de l'Académie que sur la politique religieuse du conquérant. Je prendrai cependant ces récits qui marquent le succès de ce projet politique. Alors, partout dans les pays très divers soumis à l'Empire perse, le lien entre pouvoir royal, là aussi je rejoins M. Remer, le lien entre pouvoir royal et les dieux est fondamental, sous des formes évidemment très variables. Une des réussites incontestables de Cyrus et de ses successeurs avait été d'avoir concilié la suprématie du grand roi et celle d'Ahura Mazda, d'une certaine manière, et le maintien des pratiques religieuses des pays soumis. La nature des relations changeait nécessairement avec la conquête d'Alexandre, même si Alexandre, comme l'écrit Pierre Briand, se veut être le dernier, enfin se veut être un Achéménide, le dernier. D'où l'importance des contacts avec les différents clergés des dieux locaux, qui naturellement dans la tradition grecque sont interprétés à travers leur équivalent grec, contacts que nous connaissons plus ou moins mal. Alors, le premier épisode se situe à Gordione, se trouvait le char de Midas, le fondateur du royaume phrygien. Alexandre vient de conquérir la région et dans le sanctuaire de Zeus, roi, c'est du moins le nom que lui donnent les textes grecs, dans le sanctuaire de Zeus, roi, il s'est tranché ou délié le nœud gordien du char dédié par Midas, ce qui lui promet la domination de l'Asie. Mais si elle légitime la victoire du roi, cette prophétie, post inventum, reste dans le registre humain et ne fut guère exploitée au-delà. Les relations avec les dieux représentent un enjeu beaucoup plus important dans l'épisode de Tyr. Le grand dieu est Melkarth, le seigneur de la ville, Héraclès en Grèce, comme le savait déjà Hérodote, donc l'ancêtre de la dynastie macédonienne. Alexandre entend sacrifier dans son sanctuaire au cœur de la ville, sanctuaire où officiait le roi grand prêtre, et qui était vraiment au cœur du système à la fois politique et intellectuel de la ville de Tyr. Les Tyriens veulent bien accueillir Alexandre, mais dans un sanctuaire secondaire. Ils refusent de l'accueillir en centre-ville, et leur motivation est très forte, puisqu'ils acceptent de supporter, durant 7 mois, un siège extrêmement brutal. Et ils acceptent par avance la catastrophe finale, c'est-à-dire la destruction, le massacre et ou la réduction en esclavage des survivants. Les dieux, si l'on en croit les récits populaires, véhiculés par le vainqueur, il est vrai, disent qu'ils avaient accepté ce que les hommes refusaient. Plutarque rapporte qu'Alexandre vit en songe à Héraclès, je cite, qui lui tendait la main du haut des remparts et l'appelait à ses côtés. Un autre dieu, Apollon, visita des Tyriens pour leur dire qu'ils passaient du côté d'Alexandre. Alors, je cite toujours, les Tyriens traitant le dieu comme un traître, se faisant prendre sur le fait, attachèrent sa statue par des cordes et le clouèrent à sa base en le traitant de pro-Alexandre. J'ai cherché un mot plus injurieux, mais je ne l'ai pas trouvé dans le bref temps. Par deux fois donc, la victoire donne l'aval des dieux du pays à la conquête d'Alexandre, salue la qualité de l'homme de guerre et le consacre comme roi légitime du pays. Nous sommes exactement dans la continuité l'un de l'autre. Mais ces interventions divines n'ont qu'une portée locale et Alexandre reste sur le plan divin. D'ailleurs, reste sur le plan humain, pardon. Et d'ailleurs, les nouvelles monnaies d'Alexandre, qui sont créées à peu près au moment du siège de Tyr, s'inscrivent tout à fait dans la tradition macédonienne, avec au droit la tête d'Héraclès couronnée de la peau de lion, et au revers un Zeus trônant, qui reproduit d'ailleurs un modèle de Cilicie, qui est un modèle de Tarse. Le seul élément véritablement nouveau que présenteront par la suite ces monnaies, c'est l'ajout du titre royal, mais très curieusement, qui à mon avis est un signe de culte déjà, mais très curieusement, ce culte royal n'apparaît qu'à l'extrême fin, et peut-être même seulement après la mort d'Alexandre. En fait, l'étape décisive est franchie avec la visite de l'oracle d'Amon à Siwa. C'est un oracle qui était connu depuis très longtemps par les Grecs grâce à Cyrène. Pindare l'avait chanté, donc on est vraiment dans la tradition littéraire grecque. Si le sanctuaire égyptien est dédié à Amon, les Grecs l'honoraient sous le nom de Zeus Amon et sous l'image aisément reconnaissable d'un dieu barbu à cornes de bélier. Ce n'est qu'un exemple particulier de cette très général, l'idée que les dieux des différents peuples étaient autant de variantes locales des modèles, enfin des, non, je ne viens pas des modèles, des dieux grecs. Mais c'était sans aucun doute l'exemple le mieux choisi, parce que appuyé en Grèce sur une tradition séculaire. Alexandre avait été très bien accueilli en Grèce, les Perses lui cèdent la place, le haut clergé le reconnaît comme le souverain, c'est-à-dire le grand prêtre, le pharaon, au nom de qui, et des inscriptions hiéroglyphiques le prouvent, au nom de qui les prêtres offrent chaque jour, dans tous les temples du royaume, les sacrifices aux dieux. On a même écrit qu'il avait été couronné selon les rites pharaoniques, C'est fort probable, même si ça n'est pas certain. Alors, il revient au roi de réorganiser le pays, d'où la fondation d'Alexandrie, qui entre tout à fait dans ce plan politique, mais le voyage à Siwa, qui implique une marche de plusieurs centaines de kilomètres dans le désert, ne répond à aucun objectif militaire, et les historiens anciens le présentent comme une aventure, une espèce de coup de tête poussé par une idée divine incompréhensible. Mais quel succès ! Les récits ultérieurs insistent sur le fait que le prêtre l'accueille à l'entrée du sanctuaire sous l'appellation « fils de Zeus ». Ah, nous sommes maintenant un degré plus haut. Au pied de la lettre, « fils de Zeus » signifie seulement que le prophète appliquait pour recevoir le maître de l'Égypte les règles du protocole utilisé pour tout pharaon et lui donne en égyptien le titre de « aimé d'Amon, élu de Ra, fils de Ra ». La traduction grecque, coupée de son contexte, pour des gens ignorant tout des pratiques égyptiennes, prend évidemment un tout autre sens. Zeus étant le même partout, la salutation du prophète d'Amon autorise Alexandre à se proclamer désormais fils de Zeus. La scène paraît avoir été très soigneusement montée pour l'armée macédonienne qui était venue avec le roi. Il convenait de bien faire comprendre aux soldats toute la signification de la réception de leur chef par les dieux du pays. À vrai dire, le message était difficile à admettre pour les Macédoniens, hors de convictions intimes, et de nombreux témoignages montrent que jusqu'à la fin du règne, la filiation d'Alexandre souleva critiques et railleries. Pour l'instant, cette proclamation de l'oracle d'Amon n'est pas diffusée en direction de la Grèce. De nouvelles victoires viennent heureusement confirmer l'appui des dieux. La plus importante, c'est celle de l'expédition en Inde, la victoire sur les éléphants du roi Poros, qui apporte l'élément décisif pour mettre en œuvre le projet royal. Tout est épique dans cette bataille que nous connaissons bien par Arrien. La taille du roi ennemi, 2,20 m, l'hostilité de la nature, un fleuve à traverser alors qu'il est gonflé par un formidable orage de mousson, mais cette fois-ci l'orage est plutôt signe de la victoire, les armes des ennemis, les arcs, les chars de guerre, et bien sûr la masse compacte des éléphants. Les émotions des combattants, qu'on peut comprendre, les récits immédiatement diffusés, d'abord par les lettres d'Alexandre lui-même, seront utilisés pour réaliser l'objectif politique d'Alexandre, qui est maintenant bien affiché. La méthode est nouvelle, on ne recourt plus à la déclaration d'un oracle ou d'un prophète, mais à un édit du roi qui a force de loi sur les terres qu'il domine. Le message est radical, il n'y a plus à légitimer les conquêtes du roi, il n'y a plus à les expliquer par la filiation divine du vainqueur. Alexandre roi, Alexandros Basileus, est lui-même pleinement un des dieux de l'Olympe, en tant que fils de Zeus, sans doute sous l'épiclèse de dieu invincible Théos Aniketos. Mais ça n'est pas une proclamation théologique, c'est un ordre qui s'adresse aux Macédoniens et aux cités grecques. La situation était différente chez les peuples soumis auparavant aux Perses. Leur structure politique, comme je le disais tout à l'heure, était nourrie de traditions royales et l'acceptation d'Alexandre ne posait pas de problème. Sa participation dans les célébrations cultuelles lui convenait parfaitement. Le problème, c'est la Macédoine et la Grèce, à qui Alexandre veut imposer, je ne reviendrai pas sur l'écho que nous en avons chez Aristote, une forme nouvelle de royauté et une structure nouvelle qui se substitue à l'ancienne alliance militaire. Pour donner l'existence à ce dieu, si j'ose utiliser cette expression curieuse, il fallait, mais il suffisait, que lui soient consacrés des sanctuaires, des autels, si possible, des temples et des statues. Et il fallait donc lui accorder à ces sanctuaires des revenus. Tant dans le royaume de Macédoine, où l'opposition fut très forte, que dans les cités, ces décisions ne peuvent être prises que par une décision légale du peuple, donc par un vote de l'Assemblée. Ces votes furent acquis, notamment à Athènes, mais seulement sous l'effet de menaces tout à fait explicites d'Alexandre. Alors la trace la plus nette de l'argumentation royale vient des monnaies. Je vous présente ici des monnaies qui sont très très rares. C'est une série extrêmement limitée, dont on ne sait pas très bien quand elle a été frappée, du vivant ou un peu après la mort du roi. Elle montre un éléphant monté par Poros lui-même. Vous voyez, il est couronné d'une espèce de tiare. Et Poros cherche à dès son cornac, lutte contre un cavalier macédonien. Alors le cavalier macédonien porte exactement le même costume qu'au revers. Et c'est Alexandre sur Bucéphale, armé de la longue lance macédonienne. Et au revers, nous avons une image tout à fait remarquable qui associe à la fois les traits d'un guerrier humain, le casque, la cuirasse, la longue lance, l'épée, etc. Et puis tout de même, une marque incontestablement divine, ce guerrier tient le foudre. Il est donc, à l'égal de Zeus, capable d'user du foudre. Alors, il est absolument exceptionnel que des types monétaires grecs aient une représentation historique, ce qui sera très fréquent dans le monnayage romain, mais ce qui n'est jamais le cas dans le monnayage grec. L'iconographie monétaire choisit en général des images symboliques à valeur religieuse, hors du temps, le dieu protecteur de la cité ou un animal à valeur mythologique. D'autre part, il faut faire très attention, ces monnaies ne sont pas des médailles, elles n'ont aucune valeur religieuse, on les a trouvées dans des trésors absolument comme d'autres médailles, elles se portent simplement l'image qu'un chef veut donner de l'état dans lequel il frappe monnaie. Alors l'éléphant va poursuivre sa route dans les monnaies royales, oui, le temps passe, je vous en montre trois exemples. Chez Ptolémée Ier, chez Séleucos et à Pergame, sous Séleucos, on a une image tout à fait remarquable avec le cheval d'Alexandre, Boucéphalos, avec les cornes de bœuf, et l'éléphant. La mort d'Alexandre met fin au processus de création du nouveau culte du dieu homme. Et il pourrait sembler que la tentative se soit soldée par un échec complet. Cependant, l'organisation de cultes funéraires en l'honneur d'un personnage exceptionnel après sa mort ne se heurtait à aucune difficulté et s'inscrivait au contraire dans une tradition très ancienne, celle de l'héroïsation. Et en fait, le programme que le conquérant n'avait pas pu réaliser de son vivant, les très longues difficultés suscitées par sa succession et l'apparition des royaumes hellénistiques les feront ressortir sous une autre forme. Signalons quelque chose de curieux, la tradition macédonienne voulait que le roi soit incinéré et enterré dans une tombe monumentale. Donc les généraux de Babylone décident de momifier le corps du roi et de l'envoyer en Macédoine. Mais sur la route, le général d'Alexandre qui a reçu le commandement de l'Égypte et qui a bien l'intention d'installer un pouvoir en Égypte, procède à ce que nous pourrions appeler un détournement de reliques. Il envoie un commando s'emparer du corps d'Alexandre, il le ramène à Alexandrie, et là, il lui organise des honneurs héroïques tout à fait remarquables. Et sur ces monnaies, pour bien montrer le parrainage, en quelque sorte, de Ptolémée Ier par Alexandre, il remplace la tête d'Héraclès, des monnaies que vous avez vues tout à l'heure, par une tête d'Alexandre lui-même. Je ne parlerai pas portrait, parce que la ressemblance n'avait pas une très grande importance, mais la dépouille d'éléphant montre que c'est Alexandre, vainqueur de Poros, qui est représenté ici. Et vous retrouvez l'Athéna macédonienne que nous avons vue tout à l'heure, pour l'année macédonienne, avec l'aigle de Zeus sur le foudre, qui est cette fois-ci la marque personnelle de Ptolémée Ier. Alors, le temps me manquant, je voudrais simplement vous montrer comment, à partir de 305, deux des généraux d'Alexandre, enfin, l'ensemble des généraux d'Alexandre qui restent, qui peuvent prétendre à constituer un royaume, prennent le titre de Basileus, et à ce moment-là, ils construisent, les uns et les autres, leur autorité sur un programme divin. Ce qui s'explique, à mon avis, en particulier par le fait que la population de ces royaumes est tellement hétérogène. Il y a, prenons l'Égypte, il y a des Juifs, il y a des Grecs, il y a des Égyptiens, et aucun de ces peuples ne reconnaissait les formes de culte de l'autre. Et finalement, le seul culte qui pouvait réunir l'ensemble de la population, c'était le culte du roi lui-même. Et donc nous en avons deux exemples, ici avec Démétrios Ier 7, dans un premier temps, il met l'accent sur la victoire qu'il a remportée à Chypre sur Ptolémée Ier, avec la victoire qui descend sur son bateau, et Poséidon qui vient le soutenir. Et dans un deuxième temps, en Grèce, Poséidon reste le soutien du roi, le père du roi, mais c'est Démétrios lui-même qui figure au droit avec ses cornes de taureau. Et Ptolémée, à partir de 305, quand il prend le titre royal, remplace sa monnaie, qui était avant placée sous le patronage d'Alexandre, par sa monnaie à lui, qui est tout à fait étonnante. Le succès va être remarquable, le type va rester frappé jusqu'à l'époque d'Auguste. C'est une durée remarquable. Et il est très humain, c'est un homme dont l'âge est très marqué tout de même, mais deux traits montrent qu'il n'est pas simplement humain. Il a d'une part le diadème qui fait de lui un roi, et surtout l'égide, la peau de chèvre, qui protégeait auparavant Gorgone et qui a été reprise soit par Zeus, soit par Athéna, et qui confirme que nous avons bien affaire à un dieu. Et vous retrouvez sous une forme plus grande l'aigle sur le foudre que nous avons vu apparaître discrètement tout à l'heure. Alors, encore une fois, ces monnaies ne sont pas des objets religieux, hein, ce ne sont pas des icônes, ce ne sont pas des... Mais c'est l'image que les deux royaumes veulent donner de leur chef et de leur unité. Et selon la tradition grecque, donc, l'image évoque la divinité tutélaire de l'État, et cette divinité tutélaire de l'État, c'est le roi lui-même. Il est significatif de l'hétérogénéité des constructions politiques, comme je vous le disais tout à l'heure, que le seul dieu qui puisse être reconnu par l'ensemble des populations sujettes, c'est la personne du chef sorti vainqueur. La victoire lui a donné l'autorité nécessaire pour se proclamer roi. Pendant très longtemps, les cultes royaux, qui sont le propre de la période hellénistique, ont été considérés par les historiens modernes comme une sorte de scorie produite par la conquête de l'Orient. Et ce sont les religions, en quelque sorte, irrationnelles de cet Orient corrupteur, vous trouvez ça chez Rostov-Zev constamment, qui expliqueraient que les Grecs aient pu arriver, enfin, pu descendre à créer des dieux humains. Mais il faut bien se résoudre à constater que le grand roi des Perses n'était pas considéré comme un dieu par les Perses et qu'il n'y avait pas de culte de ce genre chez les peuples conquis. C'est bien une création grecque qui s'est faite cependant très difficilement et qui a soulevé de nombreuses réticences. Si elle s'est imposée finalement, c'est que la victoire avait fait triompher à la fois l'homme et la forme politique que celui-ci avait choisie.